Bonjour, tu parles bien la France. Voilà une phrase où on sent un peu d'ironie, un peu de sarcasme et beaucoup de vitalité. Une phrase qui a été entendue il y a assez longtemps dans une cour d'école au début des années 80 entre deux enfants dont l'un disait à l'autre « c'est la sœur à Virgile » et l'autre lui dit « tu parles bien la France ». Une phrase qui a servi de titre à un essai sur la langue française qui vient de paraître aux éditions de l'Harmattan et qui est signé Julien Barret qui accepte d'être aujourd'hui l'invité de la danse des mots. Bonjour Lucien Barret, je pensais pas vous poser cette question, mais je vous la pose quand même. C'est une vraie histoire ou vous l'avez inventée, le tu parles bien la France?
Je suis Julien Barret, c'est une histoire vraie oui. Bien sûr, que j'ai vécue dans l'école où j'étais, qui s'appelle l'école Bretonneau, dans un quartier populaire de Paris, où il y avait des gens de toutes origines, des élèves de l'école primaire. Et effectivement, Tarek disait à Moussa, mais c'était quelque chose qui arrivait tout le temps et que tout le monde disait à tout le monde, on disait « tu parles bien la France ». Et cette phrase, je l'ai entendue assez souvent, elle peut se décliner en diverses variations, « tu causes bien la France ». Et c'est une forme ironique, directe, qui consiste à interpeller un interlocuteur pour lui dire « non, là, tu viens de faire une erreur et je me fous de ta gueule en faisant la même chose ».
Et en fait, c'est un très bon signe que la correction par rapport à la langue française, le purisme, la faute ou la bonne formule est quelque chose qui préoccupe énormément les francophones et en particulier les francophones de France. Alors, merci beaucoup d'être avec nous, Julien Barret. Vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste de beaucoup de choses, mais en particulier de rap et d'histoires drôles, ou en tout cas de gens qui racontent
de stand-up et
des
de
histoires drôles, puisque vous tenez un blog justement sur les humoristes qui sont seuls sur scène, et vous avez fait paraître cet essai sur la langue française,
oui.
Dont l'une des particularités, j'ai l'impression, est d'être justement une matière à querelle. Est-ce que vous avez l'impression que, pour le français, non seulement on se passionne, mais on s'empaille depuis longtemps, et plus en France qu'ailleurs, et plus autour du français qu'autour de la plupart des autres langues?
Alors déjà, d'une manière générale, j'ai l'impression qu'on aime bien se quereller en France, on aime bien la rhétorique, les débats, la forme parfois importe davantage que le fond, et les moyens nous opposent davantage que les fins, en particulier avec la langue française, oui. Dans toutes les familles, il y a des querelles. Mon oncle, mon père par exemple, j'allais dire prenez la tête, ce serait du langage familier,
oui,
s'écharpait
oui.
autour de l'existence ou non d'un tiret dans un mot composé, alors que certains s'écrivent avec ou sans tiret, selon qu'on utilise un usage ou l'autre, et on saisit le dictionnaire. C'est Bernard Cerchiglini qui dit ça, un linguiste qui est une référence pour moi. Il dit que le dictionnaire joue le rôle de Bible dans les discussions de famille et arbitre les querelles, alors même en fait que une grande partie des mots du dictionnaire varie, leur graphie varie d'une édition à l'autre. Un Larousse et un Robert n'ont pas la même langue, n'ont pas la même orthographe.
Et puis le Larousse de 1935 n'a pas la même que le Larousse de 2017. Je vous dis 2017 parce que le dernier millésime de Larousse, c'est 17, il est un tout petit peu en avance sur l'année civile.
Un tout petit peu, mais les évolutions des dictionnaires de l'Académie qui ont guidé aussi les Larousse et les Robert pour les suivre, les évolutions du français ont été plus timides depuis une centaine d'années que au XVIIe et au XVIIIe siècle, oui, au moment de la création du dictionnaire par Richelieu, l'Académie, en 1635.
Mais cet objet dictionnaire est tout à fait intéressant parce qu'il révèle une contradiction incroyable. Le dictionnaire, au départ, est censé être l'image de la langue, ou en tout cas l'image du lexique, avec un répertoire des mots.
Oui.
Et il finit par être la langue même, ou en tout cas un indicateur de la langue, puisque très souvent on entend cette réflexion un peu naïve, mais courante, c'est pas du français, c'est pas dans le dictionnaire, ce mot n'existe pas, il n'est pas dans le dictionnaire. Bah, bien sûr qu'il existe, puisque je l'ai dit. Alors il peut
Exactement.
Être considéré comme fautif, mais son existence, elle est évidente. Et pourtant on dit, ah ben non, ça n'existe pas, c'est pas dans le dictionnaire.
Et mieux que ça n'est pas du français, on dit ça n'est pas français. Avec cette, j'ai récemment subi un certain nombre d'insultes à la suite d'une interview du Figaro où des gens m'ont mal compris et des gens eux-mêmes commettent, j'utilise ce mot de façon ironique, font des fautes. Le mot français peut être saisi comme un adjectif ou comme un nom propre ou comme une identité, etc. Et ça n'est pas français révèle une ambiguïté assez parlante. à cet égard.
Oui, parce que parfois on ne dit même plus ce n'est pas du français. Mmh. Et dire ce n'est pas français, ça moralise en fait le propos. De même qu'on disait impossible n'est pas français, bah, on voit bien toute l'idée de la vertu qu'il y a derrière cette phrase qui est passée en proverbe.
Et pour aller dans votre sens, que la langue se réduise à ses dictionnaires ou à l'un de ses dictionnaires ou au dictionnaire par exemple de l'Académie française, on peut aller plus loin. Pour beaucoup de locuteurs et pour beaucoup de français, de francophones, la langue est synonyme de son orthographe. Son orthographe qui n'est que sa graphie, c'est les lettres qu'on utilise, qui n'est pas le cœur de la langue, qui serait, de mon point de vue, sa syntaxe, sa morphologie, sa grammaire, ce qui nous permet de traduire nos pensées en mots, en phrases.
Donc dans cette pensée de la langue française, derrière la langue parlée, il y a en filigrane ce juge de paix qu'est la langue écrite.
Ouais. Assez difficile de voir... qui considère, enfin, a priori, tous les locuteurs, quelle que soit, à mon avis, de leur origine sociale, se soucient d'une norme qu'ils ne connaissent pas forcément, d'ailleurs, et qui serait la norme écrite. La norme écrite n'a pas, grosso modo, pour utiliser du latin, évolué depuis Voltaire, ce qui n'est pas du tout le cas de la langue parlée, qui non seulement évolue beaucoup plus vite, mais évolue différemment selon qu'on se trouve au Cameroun, au Québec, en Suisse ou en Aquitaine.
Oui, oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la langue parlée est plus ou moins surveillée ou plus ou moins relâchée. Plus elle est surveillée, plus c'est parce qu'elle ressemble à de la langue écrite. C'est parce que c'est une traduction orale de la langue écrite. Et ça aussi, c'est assez propre au français. Bon, pas uniquement, hein, mais quand même, c'est très accentué pour le français. Alors, il y a une autre question qui m'intéresse beaucoup et que vous abordez au début de votre essai « Tu parles bien la France », Julien Barret. On dit toujours que tout fiche le camp, que ça dégénère, qu'on parle le français moins bien aujourd'hui qu'avant. Est-ce que vous avez l'impression que ce genre de sentiment se répète à l'identique d'une génération à l'autre, ou que depuis, mettons une vingtaine ou un peu plus, 20 ou 30 ans, on est dans une situation un petit peu particulière, et que les gens qui disent « oh bah le français fout le camp », c'est pas exactement la même situation que quand on entendait à peu près la même phrase avant la guerre de 14, hein, parce qu'on l'entendait beaucoup, par exemple, au début du XXe siècle.
Il y a certainement des facteurs particuliers et propres à notre époque, des problèmes de recul de l'alphabétisation, de la maîtrise écrite de la langue, mais l'idée que tout fout le camp est absolument pas nouvelle. En 1919, André Terrive, qui était un peu linguiste, un peu pamphlétaire, disait le français est perdu, dans 10 ans on ne le parlera plus. Alors, et on a continué à parler français en 1929 et on continuera à parler français en 2017 et 2018.
Tout est merveilleux ici, n'est-ce pas un peu paradis? Que brillent mes yeux éblouis, tout est merveilleux, merci, 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 je le dis, oui merci, beaucoup, merci. Je ne sais qui, mais merci pour tout. Tout est délicieux, les fruits, le sucre, le goût du miel. Tout me plaît dans ce lieu, me séduit. Merci pour ces dons du ciel. Merci, merci. Je le dis, oui merci beaucoup. Merci, je ne sais qui, mais merci pour tout.
Merci, merci beaucoup Mathieu Bogaerts, puisque c'est à vous qu'on doit ce merci, cette chanson. Et je reviens à « Tu parles bien la France », cet essai de Julien Barret dont on parle aujourd'hui dans la danse des mots, et qui parle bien sûr des fautes et même de la mode des fautes. Est-ce qu'il y a une mode des fautes? Est-ce qu'il y a des fautes qu'on va pointer du doigt plus aujourd'hui que naguère, que jadis?
J'ai jamais réfléchi à cette question de la mode des fautes, mais certainement, il y a des fautes qui sont pointées, qui sont plus mises en lumière par une forme de correction, de censure verbale que d'autres. Depuis quelques, mettons 10 ans, c'est difficile à évaluer, mais on parle beaucoup du après-que plus indicatif, que d'aucuns s'emploient à rappeler aux gens qui utilisent après-que plus subjonctif. Il y a des, j'entends souvent, sur Internet est un bon indicateur pour ça. Sur Internet, s'exprime vraiment ce que j'appelle la tyrannie du bon usage, c'est-à-dire des top 10, des listes de choses où on dit ça, c'est les fautes qui m'arrachent l'oreille, c'est des fautes insupportables.
Lesquelles vous viennent à l'esprit alors? Lesquelles arrachent le plus l'oreille en ce moment?
C'est pas du tout mon point de vue que des fautes arrachent l'oreille. Enfin, certaines m'arrachent, mais c'est pas le point de vue de mon livre. Mais il est dit que on dit pas j'ai été, mais je suis allé. Or là, on a deux idées qui sont exprimées. Si vous dites « je suis allé aux États-Unis », vous insistez sur le fait que vous êtes allé quelque part.
Sur le mouvement.
Sur le mouvement, alors que si vous dites « j'y ai été », vous insistez sur l'état quand vous étiez sur place, quoi.
Ouais. Alors, on voit aussi dans votre livre un certain nombre de fautes qui sont plus ou moins inventé. Vous racontez un dialogue entre deux collègues dont l'une dit à l'autre oh, « je suis fatigué, je suis... »
C'est pas inventé,
courant.
Rien n'est inventé.
Ah bon, alors tout vous n'inventez
vrai.
Pas,
non,
mais
non,
vous rappelez ce dialogue. « Je suis toute courbaturée. » L'autre lui dit « mais non ma chère, on ne dit pas courbaturée, ça n'existe pas, ce n'est pas du français. » On dit « je suis toute courbattue. »
Voilà, et donc vous faites un tour sur le dictionnaire de l'Académie française qui est extrêmement utile à cet égard, le site internet pardon de l'Académie française, et vous vous rendez compte que existe aussi bien courbaturé et courbattu, et que l'un insiste plus sur la maladie et l'autre sur un état passager de fatigue musculaire. Aussi bien, il y a cette question qui agite tout le monde, en particulier la sphère internet, c'est autant pour moi, autant AU, TANT en un mot, AU plus loin TEMPS, vous avez les tenants de l'un, les tenants de l'autre, il se trouve que tout le monde a raison. Et souvent...
Alors ça, c'est exactement le type d'expression qui est soumis à un phénomène de mode.
Ouais.
Parce que ça fait à peine 10 ans qu'on entend ça. Mm-hmm. Avant, personne n'en parlait, et ouais. Puis il y a des gens qui ont déterré cette chose.
Mais c'est Claude Duneton qui s'est opposé à l'ancien chef correcteur du Monde, qui écrivait un livre où il prétendait que c'était AU plus loin TEMPS, et ensuite Claude Duneton a fait sa petite chronique dans le Figaro pour rappeler son étymologie propre, chacun usant des armes dont on dispose en tant que linguiste. On prend les vieux dictionnaires, les vieilles grammaires, les livres anciens, et puis on trouve des usages qui se rapprochent du point de vue qu'on veut défendre, et on y parvient.
Oui, et il est certain qu'il n'y a pas une expression qui a raison contre l'autre, qu'on a sûrement écrit autant TEMPS avec cet usage militaire qu'on évoque, mais qu'on disait tout aussi bien autant AUTANT, et qu'il y a 30 ans, si quelqu'un avait écrit autant pour moi en deux mots, on aurait dit mais
il est fou.
Il délire, mais il est fou absolument, c'est une faute qui a été presque inventée de nos
jours.
C'est
très parlant cela, parce que ça illustre la pensée qu'on a, qu'il y a un seul usage, un usage unique, qui est sacré et qu'il n'existe pas de variante. Or, en fait, quand on étudie la langue et les origines de la langue, on remonte à des origines, à des étymologies qui ne sont pas tout le temps certaines. Ça donne lieu à des divers contradictions, et on se rend compte parfois qu'il y a plusieurs origines possibles. Et c'est l'éloge de la variante que j'essaye de faire, plutôt que celle d'un seul usage qui serait le bon, alors que non, c'est une fiction en fait.
Et puis, il est vrai que l'usage l'emporte en fait sur la règle. Si tout le monde se met à parler d'une certaine façon, la règle change. Il y a quelques siècles, on disait... C'est ma faute, par exemple. Mm-hmm. On le dit encore quand on traduit le confiteor. Hein. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et puis aujourd'hui, on dit c'est de ma faute. Bah, l'usage a primé.
Ouais.
Aujourd'hui, plus personne ne dit c'est ma faute. Ça passerait pour fautif.
Mm-hmm. Les fautes d'aujourd'hui sont l'usage de demain, et etc.
Ouais. Alors, vous parlez également du français comme langue extrêmement abstraite, et qu'on considère, qui peut en tout cas donner naissance à des usages extrêmement abstraits, la langue des élites, la langue des énarques, qu'est-ce qu'on appelait, mais ça c'était à la fin des années 60, je crois, l'hexagonal.
Oui, Oui, c'est l'hexagonal tel qu'on le parle. C'est un pamphlet très rigolo, écrit dans les années 60 et qui pointe une mode peut-être post-68arde chez son auteur, qui consiste à utiliser des mots compliqués et abstraits pour se faire valoir. Il pointe cette tendance qui remonte très très loin, puisque Molière décrivait déjà des médecins qui parlaient latin pour ne pas être compris. Et souvent, si l'on veut épater un petit peu son auditoire, enfin c'est une technique qui est souvent utilisée, je le constate ou le regrette, on utilise des mots compliqués.
Oui, des mots de quatre syllabes. De résoudre et solutionner.
Voilà, exactement.
C'est vrai que dans les années 70, on s'est mis à dire on va solutionner un problème. Alors il y a des gens qui disaient c'est parce que les Français sont paresseux. Ils ne savent pas conjuguer le verbe résoudre qui est difficile. Alors ils prennent un verbe du premier groupe en ER qui sera facile à conjuguer. Mais en fait, il y a bien autre chose. Il y a une espèce d'effet de distinction. C'est le chef de bureau qui dit solutionner.
Ouais. C'est le syndrome du garde champêtre, dit Robert Beauvais, qui écrivait cet essai pamphlétaire dont je parlais juste avant. Le syndrome du garde champêtre qui va utiliser de préférence des mots de quatre syllabes à une seule, qu'on retrouve aujourd'hui dans la police, par exemple, où on va dire l'individu a été interpellé, etc., au lieu de dire un type a été pris, mais ce serait du langage familier. Je dis pas qu'il faudrait parler différemment.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs écrits. Il y a ce qu'on peut appeler l'écrit du procès-verbal.
L'écrit du procès-verbal.
Où on parle pas de voiture, on parle de véhicule.
Voilà, oui. Cette langue, en fait, se développe et se matine. Quand vous lisez certains mails, on dit cela à l'écrit, alors qu'on dit ça à l'oral. Et on dit... Il y a des formes un peu hybrides de français semi-oral, semi-écrit qui se mettent en place et qui sont assez intéressantes, avec une influence du discours administratif où, quand on prend la parole ou quand on prend la plume pour écrire, on se met devant son ordinateur pour écrire à quelqu'un. Peut-être va-t-on avoir le réflexe d'utiliser des tics ou une manière administrative pour être pris au sérieux davantage.
Oui, mais ça change justement avec les nouvelles technologies où on a un langage qui est de l'écrit matiné d'oral et parfois de l'oral matiné d'écrit. Comme on fait des petits signes pour mimer les guillemets.
Exactement. Vous avez une forme de langage SMS qui est partout décrié et d'aucuns s'alarment que ça pourrait que cette langue phonétique puisse succéder à la langue, et des mails très figés dans une forme de classicisme. Il n'y a pas de juste milieu entre les deux.
Ben merci beaucoup Julien Barret de nous avoir parlé de Tu parles bien la France aux éditions L'Harmattan. Il y a un instant, vous évoquiez avec beaucoup d'admiration Bernard Cerchellini. Vous allez l'entendre puisque justement, c'est l'un des invités de Lucie Bouteloup dans sa séquence La puce à l'oreille. C'est lui notre linguiste maison.
Parfait.
La puce à l'oreille.
Bonjour Yvan.
Bonjour Lucie.
Alors, vous êtes fin prêt ?
Je suis jamais fin prêt, vous savez. Moi, jusqu'au dernier moment, j'ai toujours l'impression que j'ai tout oublié. Et puis, on se débrouille. Fin prêt, non.
Bon, m'en parlez pas, parce que c'est vrai que demain, on prend l'avion pour Madagascar et le sommet de la francophonie. Mais avant, comme à chaque veille de départ en mission, eh bien, il y a plein de choses à régler. Et parfois, j'avoue que j'ai tendance, moi aussi, à battre le beurre dans la liste des priorités et longues. J'ai bien dit battre le beurre, mon cher Yvan.
Non pas battre le beurre pendant qu'il est chaud.
Non pas battre le beurre tant qu'il est encore chaud. Mais vous l'aurez donc peut-être deviné, cette semaine encore, la puce en rajoute une couche avec les expressions de la francophonie et se réjouit d'accueillir une fois de plus Bernard Cerchellini qui vient de faire paraître Enrichissez-vous par les francophones aux éditions Larousse. Mais avant, eh bien, on retrouve les élèves de Marion Aberrère à Maison Alfort pour écouter ce qu'ils pensent de battre le beurre, la puce à l'oreille en francophonie, de quoi en faire toute une tartine, mon cher Yvan.
Battre le beurre, ça veut dire battre quelqu'un ?
Battre le beurre, ça veut dire mélanger du beurre ?
Ça veut dire couper le beurre ?
Manger du beurre ?
Aplatir du beurre ?
Battre quelqu'un pas assez fort pour nous ?
Battre le beurre, ça veut dire être fatigué. Parce que quand on bat le beurre, à un moment, on se fatigue.
Ça veut dire travailler. Parce que battre du beurre, c'est du travail.
Quand on dit battre du beurre à quelqu'un, ça veut dire que cette personne nous énerve. Parce que battre du beurre, c'est énervant à battre.
Quelqu'un qui aime du beurre et qu'on le bat parce qu'il aime le beurre. Du coup, il grossit, il est malade. Et donc, on doit le battre.
Bah, battre du beurre, ça veut dire qu'on met la petite fleur en dessous du menton et que c'est jaune. Bah, ça veut dire qu'on aime bien le beurre.
Quand on dit là vraiment tu bats du beurre, ça veut dire qu'on dit que là tu bats tout doucement, il faudrait que tu ailles un peu plus vite.
Alors, Bernard Cerqui-Glini, qu'est-ce que vous pensez de toutes les propositions de ces jeunes enfants de CE2? Est-ce que vous-même, vous avez la petite fleur jaune sous le menton? Est-ce que vous aimez le beurre?
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et les enfants aiment le beurre, on vient de l'entendre, mais ils ne savent pas comment on fabrique le beurre. Donc, pour eux, battre le beurre, c'est battre du beurre qui existe déjà.
Ouais.
Et donc, divers emplois qu'ils ont imaginés. Mais l'expression elle-même est belge et elle signifie battre. La crème pour faire du beurre. Battre le beurre, c'est barater, en fait. C'est donc faire ce mouvement répétitif dans de la crème, sans qu'on voit l'émulsion se faire tout de suite. C'est pédaler dans le yaourt, c'est brasser la choucroute.
Mais ça prend quand même un certain temps.
C'est ça. Donc en fait, en Belgique, quelqu'un qui bat le beurre, c'est quelqu'un qui a fait un AVC ou qui commence un peu à être gâteux, qui a du mal à s'exprimer. Il bat le beurre.
Ah oui, il sucre les fraises.
Il sucre les fraises, c'est quelque chose comme ça.
Il peut être aussi un peu à côté de la plaque.
C'est être aussi à côté de la
plaque. Il se mélange les pinceaux.
Il se mélange les pinceaux, il patine. Au Québec, on dit quand une voiture patine dans la neige, elle tourne dans le beurre. Vous voyez, c'est cette idée que ça ne prend pas.
Ça mouline dans le vide.
Mais c'est plutôt l'image de fabriquer du beurre.
Pourtant, chez nous, en France, ça renvoie plutôt à une idée de richesse. Le beurre et l'argent du beurre, mettre du beurre dans les épinards, faire son beurre.
Oui.
Qui veut dire faire un petit profit, un petit bénéfice. Comment on arrive de l'idée du beurre à l'idée de pédaler dans la choucroute? Il y a quand même, ça n'a rien à voir.
Ben, je vous dis par le barattage. En fait, les expressions que vous citez renvoient au beurre comme produit de qualité. Faire son beurre, avoir le beurre et l'argent du beurre, qui est en fait une expression anglaise traduite. En francophonie, beurre, ça reste quelque chose que l'on mange, qui est gras, qui est important et qui est bon, plutôt que valable. Par exemple, en rajouter une couche, c'est beurré au Québec.
Mais c'est ça, justement. Ouais. J'ai pu noter dans votre livre « Enrichissez-vous par les francophones » paru aux éditions Larousse, qui a quand même énormément d'expressions avec le beurre.
Beurré épais, on dit au Québec, pour en rajouter une couche. Ou par exemple, vous dites que quelqu'un, il est capable de marcher sur le beurre sans laisser de traces.
Celle-là, elle n'est pas mal.
Elle est bien. Il est malin, celui-ci. Il marche dans le beurre sans laisser de traces. Donc,
beurré épais, vous dites, attendez, vous allez
en rajouter une couche.
En rajouter couche, exagérée.
Oui. Quand il insiste, il beurre épais. Ce qui est magnifique, d'ailleurs. On voit
Il a tendance à beurrer épais quand il parle de ses enfants. Il leur rajoute des
couches. Voilà, au Québec, il fait froid l'hiver, on a besoin de prendre un petit peu de matière grasse, donc on beurre épais.
Mais d'ailleurs, on dit aussi, il en fait une tartine.
En fait, on voit bien l'imagination de la francophonie. Alors, certaines images existent en France, d'autres au Québec, en Afrique, et ça tourne, et on reste dans le beurre.
Alors, vous parliez tout à l'heure de virer dans le beurre. Il y en a une autre aussi, une expression que j'aime beaucoup, construite autour d'un anglicisme. Swinguer dans le beurre.
Swinguer dans le beurre. Ah oui, là, ça veut dire aussi bouger, remuer.
Donner un coup d'épée dans l'eau.
Voilà.
Moi, je swinguer dans le beurre.
Oui, c'est swinguer, mais c'est swinguer au sens du golf, j'imagine.
Alors ça, voilà. C'est au Québec.
C'est au Québec, oui. Alors, c'est un anglicisme du Québec, il y en a. C'est apparemment du golf. Donc, c'est pour rien. Dans le beurre, c'est aussi pour rien. Curieusement, le beurre qui a de la valeur aussi peut manquer de valeur. Car quand j'étais écolier, je disais, on joue pour du beurre.
Oui,
vous
donc ça compte pour rien.
Ça compte rien, voyez? Parce que là,
je compte pour des prunes.
Pour des prunes. Or, la prune, c'est quand même une valeur. Mais la prune, c'est aussi, ce n'est pas la prunelle des yeux, c'est une petite quantité. Et le beurre fond. Donc, comme il fond, il manque de valeur. Donc, on joue pour du beurre.
Ah, je vois.
C'est intéressant, la langue.
Et alors, quand on dit qu'on est beurré, par exemple, pour dire qu'on est ivre, ça pourrait un petit peu coller avec l'idée de se mélanger les pinceaux.
Oui, alors on est beurré comme un petit lu, qui est un.
On est beurré comme un petit lu.
Voilà. Je me demande, c'est pas une prononciation dialectale de être bourré quand même. Bourré, ah. Beurré, oui, parce que je vois mal le lien, mais on peut, un auditeur peut me le signaler, entre l'ivresse et le beurre, mais peut-être qu'il est à trouver. Hein.
Bah, patiner. Peut-être que comme le beurre fond, on patine dans le beurre, oui. Et on se casse la figure.
Exactement, voilà, comme une roue qui patine dans la neige fondue au Québec.
Et puis il y a aussi l'idée peut-être de pouvoir faire une erreur, comme le beurre c'est un corps gras, comme une tache d'huile.
Peut-être. Peut-être. En tous les cas, vous parlez d'huile, on voit bien que le français, c'est une langue romane du Nord, c'est une langue du beurre. L'occitan est de l'huile d'olive.
Mais oui.
C'est en occitan qu'on aurait des images sur l'huile.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Bernard Cerchiglini, d'être venu nous éclairer aujourd'hui. Et pour en rajouter une couche, je recommande à tout le monde de se procurer votre ouvrage « Enrichissez-vous par les francophones » paru aux éditions Larousse. Et puis, je vous propose d'écouter « Je beurre épais » de Linda Lemay.
Ah, c'est génial, « Je beurre épais ».«
Je beurre épais
». Oui, je beurre épais, c'est vrai, je l'avoue. Et puis je me mets des bottes aux genoux. Je me permets même des rajouts. Puis plus il y en a, plus c'est à mon goût. Moi j'ai toujours été comme ça. Les années passent, mes goûts changent pas. Je mets du rose pâle sur ma bouche. J'ai le syndrome Fabienne Larouche.
J'ai juste. Moi aussi je vais me mettre quelque chose aux genoux parce que l'hiver arrive et on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Merci beaucoup Lucie Bouteloup pour cette puce. Merci à Bernard Cerchiglini qui vous donnait la réplique. Et merci à vous Julien Barret pour votre essai Tu parles bien la France qui est paru récemment aux éditions de L'Harmattan. Merci d'être venu en parler dans La Danse des mots, une émission proposée par le réseau Canopé et RFI. Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Amar.